Chapitre 18. Le chapitre 18 des Actes, vu sous la perspective de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Acte 18 est un chapitre où la fatigue du ministre, la formation de l'Église locale et l'apport d'un complément aux doctrines incomplètes sont présentés de manière multidimensionnelle. L'objectif de ce chapitre n'est pas simplement d'énumérer les réalisations du ministère, mais de montrer comment l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est le salut déjà accompli, réconforte le ministre, stabilise l'Église et rend les enseignements parfaits. Acte, chapitre 18, versets 1 à 4, entrée à Corinthe, sur la puissance d'autosuffisance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui imprègne le domaine de la vie quotidienne. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient des faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs. Paul quitte Athènes et arrive à Corinthe, et parce qu'ils partagent le même gagne-pain, il vit avec le couple Aquilas et Priscille et travaille à fabriquer des tentes. Chaque sabbat, il discourt dans la synagogue et exhorte les Juifs et les Grecs. Cela montre que l'Évangile ne dépend pas d'une structure de soutien ou d'un environnement spécifique, mais avance en s'unissant à la vie même du ministre. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas influencé par l'environnement. Au contraire, parce qu'il est enraciné dans les événements historiques du baptême, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, il ne s'arrête dans aucune situation. Acte, chapitre 18, versets 5 à 8, rejet et transition, sur le passage d'un lieu s'accrochant aux conditions religieuses à un lieu embrassant la grâce du salut. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Lorsque Silas et Timothée descendent de Macédoine, Paul est pressé par la parole de Dieu et témoigne clairement aux Juifs que Jésus est le Christ. Cependant, lorsqu'ils s'y opposent et blasphèment, Paul secoue ses vêtements et déclare « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Ce n'est pas simplement une expression de colère, mais une scène montrant que l'ordre du salut passe de la synagogue, qui s'accroche à la loi et aux conditions et rejette l'Évangile aux païens qui embrassent la grâce gratuite. Acte, chapitre 18, versets 9 à 11, la vision du Seigneur sur la confirmation d'appartenance donnée à un ministre découragé. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant son ministère à Corinthe, le Seigneur parle à Paul pendant la nuit par une vision. « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Cette parole va au-delà d'une promesse garantissant la capacité du ministre. C'est une déclaration confirmant que même ceux qui ne se sont pas encore convertis sont la possession de Dieu. En révélant que le salut déjà accompli est préparé dans cette ville, il relève le ministre découragé, l'amenant à rester 1 an et 6 mois pour enseigner la parole de Dieu. Acte, chapitre 18, versets 12 à 17, acquittement devant Gallion, sur l'innocence publique de l'Évangile et la restauration de l'ordre. Du temps que Gallion était proconsul de l'Achée, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs ». Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mît en peine. Les Juifs se soulèvent unanimement contre Paul et le mènent devant le tribunal, l'accusant en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Cependant, le proconsul Gallion rejette l'affaire en disant « Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses ». Cela peut être vu comme un incident où l'évangile de l'eau et de l'esprit est publiquement confirmé, non pas comme un crime qui détruit l'ordre du monde, mais comme la vérité qui libère l'âme humaine de la condamnation. Actes, chapitre 18, verset 18, vœux et liberté, sur l'expression volontaire d'un saint plutôt qu'une condition de salut. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquila, après s'être fait raser la tête à Sancheré, car il avait fait un vœu. Paul reste encore assez longtemps, puis prend congé des frères et s'embarque pour la Syrie. Et Priscille et Aquila sont avec lui. À ce moment-là, parce que Paul avait fait un vœu auparavant, il se fait raser la tête à Sancheré. Cet acte de vœu n'est en aucun cas une condition pour obtenir le salut ou une procédure pour accumuler la justice. La voie du salut confirmée dans Acte 15 reste inchangée, mais c'est une expression volontaire d'une résolution de foi personnelle par un apôtre qui a acquis la liberté dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, montrant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est dans un état non lié par la loi. Actes, chapitre 18, versets 19 à 22, la porte d'Éphèse, sur le voyage de l'évangile attendant le moment du Saint-Esprit. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Arrivé à Éphèse, Paul s'entretient avec les Juifs et on le prie de rester plus longtemps. Mais il prend congé d'eux en disant « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut » et part en bateau. L'évangile accompli ne se répand pas par l'impatience humaine, mais se meut selon le moment exact de Dieu. Même devant une porte ouverte, l'apôtre a donné la priorité à la direction du Saint-Esprit et a fait confiance à la souveraineté de Dieu qui prépare l'histoire du salut pour le ministère suivant. Actes chapitre 18, versets 24 à 26, Apollos, sur le fait d'être complété par la structure exacte de l'Évangile au-delà du zèle. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Un Juif nommé Apollos est arrivé à Éphèse et cet homme était éloquent et versé dans les Écritures. Il avait appris la voie du Seigneur très tôt et, avec zèle, annonçait et enseignait en détail ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Sur ce, Priscille et Aquilas l'ont entendu, l'ont pris avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ce qui manquait à Apollos, c'était la structure complète du salut, à savoir que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême au fleuve Jourdain, l'eau, et que ses péchés ont été achevés sur la croix. Et grâce à ce complément, son enseignement devient enfin complet. Actes, chapitre 18, versets 27 à 28. Le résultat du complément sur la puissance spécifique de l'Évangile qui bâtit fermement l'Église de Dieu. Comme il voulait passer en Achée, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient le cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Lorsqu'Apollos, dont l'enseignement avait été complété et passé en Achaïe, il y est allé et il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient le cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. La capacité fondamentale par laquelle Apollos a pu aider la communauté n'était pas sa splendide éloquence, mais le fait qu'il prouvait à travers les événements comment Christ avait accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit selon les promesses des Écritures. Lorsque le fondement exact de l'évangile est établi, l'Église jouit enfin d'une stabilité inébranlable. En conclusion, Acte 18 témoigne du processus par lequel l'évangile de l'eau et de l'esprit guérit le découragement des ministres, rend complet les enseignements lacunaires et édifie l'Église de manière ordonnée. Le salut n'est pas fondé sur le zèle humain, mais sur l'événement déjà accompli de Dieu, et particulièrement lorsque la signification de l'eau, qui est le baptême de Jésus, est positionnée avec précision dans la structure de l'évangile, la grâce devient une puissance pratique qui aide grandement la communauté. C'est la structure du ministère sur le terrain de l'évangile montrée dans Acte 18. Un sermon de Paul C. Jong. La parole d'Acte. Chapitre 18, versets 1 à 28, montre avec puissance que l'évangile ne se répand pas par les compétences oratoires éloquentes d'une personne ou par un environnement favorable, mais qu'il est établi par le contenu clair du salut que Dieu a déjà accompli. En regardant ce passage du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul C. Jong, nous pouvons voir qu'Acte 18 n'est pas simplement le récit de l'histoire du succès d'un ministre, mais un témoignage très important de la façon dont l'évangile est complètement corrigé et étendu. Lorsque Paul a quitté Athènes et est arrivé à Corinthe, qui était pleine de philosophie et de plaisir, il a rencontré un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, et sa femme Priscille. Parce qu'ils avaient le même métier, il est resté et a travaillé avec eux. C'était pour ne pas s'appuyer sur les conditions du ministre, mais pour révéler uniquement la puissance du ministère que Jésus-Christ avait déjà accompli. Lorsque Silas et Timothée sont descendus de Macédoine, Paul fut pressé par la parole de Dieu et témoigna clairement aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais lorsqu'ils s'y sont opposés et ont blasphémé, Paul a secoué ses vêtements et a dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens ». Cette déclaration n'était pas une rupture émotionnelle, mais une clarification de la responsabilité à l'égard de l'Évangile, montrant que la vérité selon laquelle Jésus a pris sur lui les péchés du monde au fleuve Jourdain et a été jugé sur la croix doit être transmise par le témoignage et non par la coercition humaine. Crispus, le chef de la synagogue, a cru au Seigneur avec toute sa famille et beaucoup de Corinthiens ont également entendu, cru et été baptisés, mais il y avait encore de la peur dans le cœur de Paul. Pendant la nuit, le Seigneur a parlé à Paul dans une vision « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Actes, chapitre 18, versets 9 à 10. Le Seigneur n'a pas donné un nouveau message à Paul, mais lui a ordonné de continuer à annoncer l'évangile déjà accompli sans se taire, ce qui signifie que l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être proclamé, non pas lorsque les gens sont prêts, mais parce qu'il y a ceux que Dieu a déjà choisis. Paul y est resté 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi eux. Lorsque Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se sont soulevés unanimement contre Paul et l'ont mené devant le tribunal, disant que cet homme excitait les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Cependant, Gallion a considéré qu'il s'agissait d'une question de mots, de noms et de leur propre loi, et ne s'en est pas mêlé. Cette scène montre que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas maintenu par la puissance du monde ou le jugement des tribunaux, mais qu'il est la vérité absolue déjà accomplie devant Dieu. Paul est resté encore assez longtemps, puis a pris congé des frères et s'est embarqué pour la Syrie, est arrivé à Éphèse, est entré dans la synagogue et s'est entretenu avec les Juifs. Promettant « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut », il a débarqué à Césarée et est descendu à Antioche. Pendant ce temps, un juif nommé Apollos est venu à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Apollos avait appris la voix du Seigneur et, avec zèle, annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il possédait un évangile incomplet, ne connaissant pas avec précision la signification de l'évangile de l'eau et de l'esprit concernant la façon dont Jésus a pris sur lui les péchés du monde au fleuve Jourdain. Priscille et Aquila l'ont pris avec eux et lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu, ce qui fut un ministère décisif pour établir correctement le cœur du salut, le baptême de Jésus, la croix et le témoignage du Saint-Esprit. Après que l'évangile eut été correctement établi, Apollos est passé en Achaïe avec l'encouragement des frères, et là, il s'est rendu très utile à ceux qui avaient cru par la grâce. C'était parce qu'il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ, ce qui montre que ce n'est pas un évangile partiel, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit qui l'a transformé en un véritable témoin inébranlable. Acte 18 nous demande si nous parlons avec un simple zèle ou si nous prêchons l'évangile exact. Lorsque cet évangile, selon lequel Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés au fleuve Jourdain, a été jugé sur la croix et que le Saint-Esprit en témoigne, est correctement établi, un ministre peut éviter de se taire même dans la peur et l'Église est solidement bâtie. Questions et réponses sur le chapitre 18 des Actes. Première. Maintenant, pour ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, doit-il s'intégrer dans leur vie afin de prêcher cet évangile? Le cœur de cette affirmation réside dans le fait que l'évangile perd sa puissance s'il reste simplement comme un message des lèvres. Si quelqu'un confesse croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que cet évangile est séparé de sa vie, les paroles prononcées ont du mal à avoir une force de persuasion. L'évangile n'existe pas seulement en tant que doctrine, mais devient un témoignage vivant uniquement lorsqu'il se révèle dans la vie. Le fait que l'évangile s'intègre dans la vie ne signifie pas devenir une personne parfaite. C'est plutôt la conviction que le salut est fondé sur la grâce qui se reflète dans les attitudes quotidiennes. Un changement doit apparaître où le pardon précède la condamnation, où la conviction existe plutôt que la peur et où la gratitude devient le centre plutôt que la propre justice. Une telle vie devient un message plus fort qu'un langage religieux exagéré. De plus, le monde regarde la cohérence plutôt que les paroles. Si l'Évangile proclame un salut accompli, alors dans la vie du croyant, la liberté et l'amour responsable doivent être révélés, et non l'anxiété et le sentiment de mérite. Lorsque la vie et le message sont séparés, l'Évangile ne reste qu'une revendication. Lorsque la vie et le message s'alignent, l'Évangile gagne la confiance. Par conséquent, une personne qui a l'intention de prêcher l'Évangile doit d'abord se tenir profondément dans cet Évangile. Elle doit savoir clairement ce qu'elle croit, et cette croyance doit imprégner sa façon de penser, la construction de ses relations et ses critères de choix. Lorsque l'Évangile forme la vie, les paroles suivent naturellement. En fin de compte, le point de départ de la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une stratégie, mais une conviction intérieure. Lorsque l'Évangile est intégré dans la vie, l'évangélisation ne devient pas une coercition, mais un témoignage débordant. Il est important de ne pas l'oublier. Deuxième, un évangéliste doit accomplir son ministère en étant captivé par la parole de Dieu et sa vie elle-même doit également être consacrée à une vie pour la propagation de l'Évangile dans la foi qui croit en la parole de Dieu. Explication. Le ministère d'un évangéliste ne commence pas par une passion ou une capacité personnelle, mais commence par le fait d'être captivé par la parole de Dieu. Si la parole ne devient pas la norme, le ministère peut facilement dériver en se centrant sur des pensées ou des stratégies humaines. Cependant, une personne captivée par la parole place la volonté de Dieu avant sa propre volonté et fonde la direction de son ministère sur la norme de la Bible. De plus, un évangéliste ne doit pas être simplement une personne qui transmet un message, mais une personne qui vit à l'intérieur de ce message. La foi qui croit en la parole de Dieu doit former sa vie entière. Si l'on suit des valeurs différentes dans sa vie réelle tout en prêchant l'évangile, le ministère perd sa puissance. L'évangélisation gagne en autorité lorsque la vie et le message s'alignent. Se consacrer à une vie pour la propagation de l'évangile ne signifie pas ne pas poursuivre le succès séculier, mais signifie placer la priorité de la vie en la centrant sur l'Évangile. L'utilisation du temps, la direction des relations et la norme des choix doivent être liées à l'Évangile. Le ministère ne se déroule pas seulement en chair, mais se poursuit dans la vie quotidienne. De plus, une vie captivée par la parole s'accompagne d'humilité. Un évangéliste n'est pas un technicien qui persuade les gens, mais un intendant à qui l'on a confié la vérité de Dieu. Plutôt que de s'appuyer sur sa propre capacité, il faut faire confiance à la puissance de la parole. À ce moment-là, le ministère ne devient pas une compétition, mais une obéissance. En fin de compte, la puissance d'un évangéliste ne vient pas de l'éloquence, mais de la conviction en la parole et de la cohérence de vivre selon cette parole. Une personne qui est captivée par la parole de Dieu et dont la foi dirige la vie devient naturellement un canal pour la propagation de l'évangile. Lorsque le ministère et la vie ne sont pas séparés, l'Évangile se révèle plus clairement. Troisième, ceux qui sont dispersés à travers le monde et qui vivent en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent parfois faire face à la solitude. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous appartenons à l'Église qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous devons vivre en son sein. Explication. Les personnes qui sont dispersées à travers le monde et qui vivent en gardant leur foi peuvent d'eux parfois éprouver une profonde solitude. Lorsque la culture et les valeurs environnantes le sont différentes et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent de la même foi, il est facile de ressentir un sentiment d'isolement. En particulier, plus on essaie de vivre avec la conviction de l'Évangile au centre, plus on peut ressentir un sentiment de distance par rapport au courant du monde. Ce qui est important dans de tels moments, c'est de se rappeler le fait que l'on n'est pas seul. La foi peut commencer par une décision individuelle, mais elle est essentiellement communautaire. Le fait qu'il y ait une église qui confesse le même évangile et qu'il y ait des frères et sœurs se tenant sur la même foi devient une grande force. Même si l'on est physiquement séparé, la conscience d'être connecté au sein de la même confession de foi devient le fondement pour endurer la solitude. De plus, appartenir à une église ne signifie pas une simple appartenance de nom, mais signifie une solidarité et une responsabilité spirituelle. En restant dans une relation où l'on prie les uns pour les autres, où l'on partage la parole et où l'on échange des encouragements, la foi est maintenue. L'isolement peut affaiblir la foi, mais l'unité soutient la foi. Au lieu de se déconnecter dans la solitude, il faut être consciemment connecté à la communauté. À travers le culte, la communion fraternelle et le partage de la parole, on doit se rappeler que l'on fait partie d'un corps plus grand. C'est parce que l'Église n'est pas une simple organisation, mais un rempart qui soutient les croyants. En fin de compte, le chemin de la foi est un chemin qui est à la fois personnel et communautaire. Lorsque nous n'oublions pas le fait que nous nous tenons dans le même évangile, bien que nous soyons dispersés, la solitude ne devient pas un désespoir, mais un temps de persévérance. Lorsque nous nous souvenons de la communauté et gardons la conscience que nous lui appartenons, la foi peut devenir encore plus ferme. Quatrième. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous devons faire connaître avec exactitude la structure de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si l'évangéliste ne se consacre pas à faire connaître cette structure de l'Évangile, la propagation de l'Évangile peut échouer. Par conséquent, il faut absolument garder ce point à l'esprit. Explication. Lors de la prédication de l'Évangile, la chose la plus importante n'est pas l'ampleur du zèle, mais la clarté du contenu. Si l'on ne peut pas expliquer clairement sa structure tout en disant que l'on croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la personne qui écoute ne recevra que des informations fragmentaires. C'est parce que l'Évangile n'est pas un simple message d'émotion, mais une nouvelle de salut qui a une structure concernant la façon dont le péché a été résolu. Faire connaître avec exactitude la structure de l'Évangile signifie relier et expliquer le problème du péché, le ministère de Jésus-Christ et comment ce ministère s'applique aux humains. Si ce lien est omis, la croix ne reste qu'un symbole et la foi peut être réduite à une vague décision religieuse. La structure doit être claire pour que la conviction naisse et la conviction doit exister pour que la foi ne soit pas ébranlée. Si l'évangéliste ne se consacre pas à cette partie, il y a un risque que l'évangile se transforme en un message s'appuyant sur l'expérience ou le zèle humain. Dans ce cas, la personne qui écoute pourrait être touchée pour un moment, mais pourrait ne pas atteindre une compréhension profonde. C'est parce que l'évangile n'est pas un appel émotionnel, mais la transmission de l'événement du salut que Dieu a accompli. De plus, expliquer clairement la structure n'est pas dans le but de débattre, mais dans le but de réduire les malentendus. Parce que même si les mêmes termes sont utilisés, ils peuvent être compris avec des significations différentes, les concepts fondamentaux doivent être clairement présentés sur la base de la Bible. C'est la responsabilité pour transmettre l'Évangile sans déformation. En fin de compte, la réussite ou l'échec de la propagation de l'Évangile dépend de l'exactitude du contenu transmis, plutôt que des résultats extérieurs. Un évangéliste doit comprendre profondément l'essence et la structure de l'Évangile et ne doit pas négliger l'effort de l'expliquer clairement. Lorsque ce point est gardé à l'esprit, l'Évangile n'est pas flou et reste comme une norme claire dans l'esprit de l'auditeur.